Bonsoir et merci pour le dernier carré. On est toujours quelques-uns, mais j'y tiens parce que c'est un dernier petit rendez-vous qui d'ailleurs ne durera pas les 50 minutes habituelles. On va se quitter avant, on ne va pas faire les prolongations inutilement. Mais je trouve intéressant de faire une dernière rencontre. On passe de 3 à 2 et à 1, c'est-à-dire qu'on trouve le moyen avec quelques amis dont on a compris que soit ils vont partir tard, soit ils vont rester jusqu'à demain. Et ça va permettre de se poser quelques questions un peu banales, mais qui finalement, fin de festival, peuvent être sympathiques. Voilà, je voulais vérifier un petit détail technique, c'est que notre ami Paul Béran prend le train, le dernier, après on reste à Épinal, de 19h07, me semble-t-il, et donc vers 18h45, il devra nous quitter, mais ça tombe très bien, parce que ça sera l'heure à laquelle je vais clore ce café littéraire, donc ça sera un départ triomphal, et ça sera la fin du festival, finalement. Tu vas faire, Paul, la clôture. Lionel Davoust, alors je ne vous présente plus, j'en profite pour lui dire, outre mon amitié, mais qui lui s'est acquise, surtout l'estime que j'ai pour son professionnalisme, pour la générosité avec laquelle, comme nos autres traducteurs, je vois dans la salle Jocelyne Bourbonnière et tous les autres, la façon dont il assure les traductions, et cette année, mais c'est, je sais, un travail, mais aussi un bonheur, Robin Hobb et Christopher Priest, et ça tombe bien, c'est aussi deux de mes admirations littéraires, et deux personnes que, en plus, j'apprécie énormément. Bonjour Patrick, on vendait trop de livres, on était encore aux dédicaces.
Oui, c'est le sérieux, jusqu'au bout.
Installez-vous. Donc cette dernière rencontre, trois auteurs qui, dans leur façon différente d'écrire et d'inventer des histoires, reflètent bien la génération actuelle de l'imaginaire. Alors on va commencer par Lionel, puisque il a commencé pas par la fiction, lui, il a commencé par en fait la traduction. Il a commencé ensuite... continué par la direction de revue, puisqu'il a dirigé 5 numéros durant. Ça a été une brève aventure, mais ce n'est pas de sa faute. C'est celle de son éditeur, auquel je collaborais activement, aujourd'hui disparu. Et il a dirigé Asphodel, qui était l'équivalent, pour ceux qui s'en souviennent, de la revue de science-fiction Galaxy, dans le domaine de la fantasy, 5 numéros. Mais pour ceux qui l'ont encore dans la bibliothèque, 5 numéros marquants, parce que les dossiers qui ont été faits, Robin Hobb pour le numéro 1, le numéro 4 ou 5, c'était
George Martin,
excusez du peu, ce qui veut dire qu'en gros, les gens qui animent ou collaborent à ce festival avaient déjà à peu près bien repéré quels étaient les talents qui montaient et qui méritaient l'attention des lecteurs. Alors, Lionel, justement, un dernier pour la route, c'est aussi se poser la question de pourquoi écrire ? Pourquoi écrivez-vous ? Pourquoi vous qui auriez pu faire une belle carrière, vous êtes encore un peu apprécié comme traducteur par d'excellents éditeurs, vous étiez un excellent responsable de revue, vous auriez pu vous engager dans cette voie, vous êtes un bon anthologiste aussi puisque vous en avez fait déjà 3 après moi-même pour ces imaginales, l'anthologie du festival. Qu'est-ce qui vous a poussé, bon sang, à vouloir à tout prix raconter des histoires, écrire des nouvelles, publier des romans et devenir un romancier qui a déjà décroché dans le domaine de la nouvelle le prix Imaginal? Lionel Davoust.
Alors c'est bien évidemment pour aller siroter des mojitos à Ibiza. Bon, en réalité, c'est plutôt pour aller boire de l'eau à Château-Giron. Moi, ça a toujours été mon truc, depuis toujours. C'est la puissance de l'écrit m'a toujours frappé. C'est un truc magique parce que, en un sens, vous pouvez donner un message à quelqu'un et cette personne va pouvoir le recevoir et vous n'êtes pas là. Et pour moi, toute la magie de l'écrit se situe là. C'est un truc qui m'a toujours fasciné depuis toujours, cette espèce de communication décalée dans le temps. Ça a toujours été mon envie. Alors après, j'ai essayé de faire un maximum de métiers dans le domaine et que je continue un peu à faire aussi pour continuer à m'ouvrir à autre chose, pour ne pas rester ancré dans la tour d'ivoire de l'auteur qui perd pied avec les réalités. C'est aussi pour ça que je continue régulièrement à partir en volontaire écologique dans des trous perdus où personne ne sait que j'écris 10 bouquins, tout le monde s'en fout, et c'est très très bien. Ça fait le plus grand bien à l'ego de l'auteur qui peut gonfler tout seul quand il est derrière son clavier et qu'il ne voit personne, et que comme il ne voit personne, il est persuadé d'être la personne la plus importante. Donc c'est simplement l'envie de raconter. Je pense que c'est un truisme hein, de dire ça. On écrit simplement les livres qu'on aimerait trouver. C'est cette envie de déjà en soi, de façon très égoïste, de se raconter des histoires à soi, de créer les mondes qu'on a envie de voir, de vivre les aventures qui nous font vibrer aux côtés des personnages, et puis ensuite de partager avec de partager simplement avec avec le monde, avec les lecteurs qui nous font le plaisir de nous suivre, les questions qu'on se pose, et puis le plaisir de se raconter des histoires.
Plutôt des histoires adultes, même s'ils sont lisibles par des grands lycéens pour Lionel Davoust. Vous, Patrick Maxpar, plutôt pour la jeunesse, vous avez commencé à écrire pour la jeunesse. Pourquoi ?
Parce que je suis resté un grand enfant. Non, plus sérieusement, ça m'est apparu assez évident. À la base, je viens du milieu de la bande dessinée. J'ai été longtemps auteur BD, scénariste et dessinateur BD, jusqu'au jour où je me suis aperçu que j'étais bien plus fait pour le mot que pour l'image. Donc j'ai renoncé au dessin, j'ai eu raison d'ailleurs, puisqu'il y a des dessinateurs qui sont, je connais des dessinateurs qui sont bien meilleurs que moi, et je m'épanouis beaucoup, bien davantage finalement, dans l'écrit. Ceci dit, je suis toujours scénariste, mais uniquement scénariste BD. Et puis, sinon, la plupart du temps, romancier. J'ai perdu de vue la question, Stéphanie, je suis désolé. Je suis bavard et c'est le sud-ouest.
On a tout le temps, on est trois, c'est le dernier café, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Et là, on essaie d'être tout en étant, j'espère, proche du public, dans un total professionnalisme. Mais néanmoins, là, voilà,
ah oui, ça y est, décontracté. J'ai retrouvé. Jeunesse. Pourquoi plutôt jeunesse ? Parce que ça m'a donné, avec la première saga, la saga des Hauts Conteurs, j'avais plutôt envie d'écrire aussi pour les jeunes. Quoi. Les Hauts Conteurs, autant que les Héritiers de l'Aube, sont des sagas qui peuvent être lues aussi bien donc, quand on est pré-ado que young adult ou bien plus. Voilà. Mais j'avais envie quand même de pouvoir écrire aussi pour les jeunes. Moi, je me souviens que quand j'avais... Il y a pas mal de temps, j'avais une dizaine d'années, mes premiers romans ont été Bob Morane. J'ai découvert Bob Morane, bon voilà, ça a enchanté ma sortie d'enfance, quoi. Parce que ça parlait aussi bien d'aventures que de policiers, que parfois d'espionnage, de fantastique également. Et voilà, j'avais aussi envie de pouvoir offrir ça à des gamins. Qui ont l'âge que j'avais moi à l'époque.
Autre petite question pour peut-être aussi mieux cerner votre personnalité d'écrivain. La première, Les Hauts Conteurs, c'était un roman en collaboration.
Totalement.
Série.
Oui, c'est toujours d'ailleurs, car ça n'a pas changé. Les Hauts Conteurs, c'est une saga qui a été coécrite avec mon vieil ami Olivier Perru, qui, pour Les Hauts Conteurs, quand il est romancier en général, il écrit plutôt Oliver. Quand il est en BD, il écrit Olivier.
Et qu'est-ce que ça change pour un écrivain, parce qu'il y a quand même du métier qui était en BD déjà avant, qu'est-ce que ça change de passer de l'écriture à deux, en collaboration, à une série comme Les Héritiers de l'Aube qu'on écrit seul ?
En fait, Les Hauts Conteurs n'ont pas réellement été écrits à quatre mains. On ne pouvait pas, parce que nous astreignions à des délais de production très courts. On en a sorti 4 en une année, donc un par trimestre. Olivier était sur Paris, moi donc à ce moment-là, j'étais plutôt sur Bayonne-Biarritz. C'était vraiment trop difficile d'écrire à quatre mains. Donc Olivier a écrit le 1, moi j'ai écrit le 2, le 3. Ensuite, il devait faire le 4 et puis il avait pris pas mal d'engagements. Donc je suis venu... un renfort, disons, sur le 4. Et sur le 5, il était établi à l'origine que je l'écrirais moi-même. Donc, il a écrit, lui, le long épilogue d'une trentaine de pages du tome 5. Donc, finalement, Stéphanie, ça n'a rien changé parce que j'ai travaillé exactement de la même manière. Quoi. Enfin, après, évidemment, à l'époque des Hauts Conteurs, quand Olivier écrivait le tome 1, il m'envoyait les chapitres, je lui faisais part de mes impressions, et inversement, bien sûr. Donc ça reste de toute manière une œuvre complètement commune, même si on n'a pas pu travailler vraiment à 50-50 comme, sur le plan de l'écrit comme on l'avait prévu au départ. Mais on s'est amusé comme des fous. Quoi. Et après, pour les héritiers, finalement, bon, j'ai travaillé de la même manière pour les héritiers.
Et puis, il s'est amusé, mais aussi un beau succès avec des jeunes reprises en poche, quand même.
Oui, 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 totalement.
Et plus, un prix, en plus.
Oui, deux prix. Deux, on a eu vrai. Elbakin et les Inco qui nous ont apporté un éclairage inespéré pour nous qui étions des... de jeunes écrivains. Olivier avait sorti Druide, je crois, juste avant Léo Conteur, mais il était encore peu connu en tant que romancier, et moi, pas du tout, puisque j'avais rien sorti. Et le prix des Inco nous a été très, très bénéfique, évidemment. Quoi.
Paul Béorn, à vous. Ah, vous aussi, ça s'est bien passé pour votre premier roman. Il n'aurait pas eu un prix par hasard ?
Le tout premier, il était sélectionné pour plusieurs prix, mais il n'en a pas eu. Par contre, j'en ai eu un récemment pour 14-14, effectivement, coécrit aussi avec
Silène Edgar.
Avec Silène Edgar, une autre auteure. Donc effectivement, un prix, le prix des Inco, on l'a pas, mais on est déjà sélectionné, ce qui est déjà une bonne chose.
Absolument.
Et on a eu le prix Gulis, qui nous a permis de passer à la télé. On n'est jamais très à l'aise, mais enfin, on a fait un grand sourire, on a fait semblant d'être des gens intelligents. Et c'est passé sur Gulli en boucle pendant 2 mois, ce qui a été quand même très profitable pour le roman.
Ça aide pour pousser le livre.
Ah,
quand
ça
même,
aide carrément, oui.
Bref, les faits sont penchés sur vos berceaux, jeunes gens. Lionel, ça fait quoi de, même si on débute une carrière et qu'on sait que ce n'est pas un métier évident, écrivain, qu'il faut quand même vendre beaucoup de bouquins pour commencer à en vivre correctement? Qu'est-ce que ça fait quand même un premier prix, par exemple, prix imaginal de la nouvelle?
C'est irréel. En plus, on se rend vraiment pas. Enfin, on mesure pas, on se rend pas compte. Déjà, la sortie d'un livre en soi est un truc qui est totalement irréel. Faut savoir, ce que les gens savent pas forcément, c'est que les délais dans l'édition, par dans de rares cas comme pour Léo Conteur, j'imagine, mais en général, les délais dans l'édition sont des choses extrêmement longues. C'est-à-dire que vous avez terminé un manuscrit. Vous l'envoyez, il va être pris ou pas, après il va y avoir des corrections, ensuite il doit s'intégrer dans un programme de publication. Fréquemment il peut se passer un an une fois que le livre est fini pour vous et qu'il sort en librairie. Donc il y a une espèce de donc c'est très irréel. Et le fait de moi j'étais dans je traînais dans l'imaginaire depuis longtemps et je voyais mes héros de jeunesse recevoir des prix sur les scènes. Et le jour où ça vous tombe, la réalisation vous tombe dessus, vous dites « la vache, ça va être moi à cette place-là », c'est totalement surréaliste. C'est évidemment un grand honneur et c'est, je reste toujours ébahi de me dire qu'il y a des vrais gens qui ont lu ce que j'ai fait, c'est-à-dire s'il y a des vrais gens, c'est-à-dire c'est pas juste ma copine et ma famille, quoi. Et c'est toujours renversant. Et enfin, moi, j'arrête pas d'être ébahi de voir des vrais gens qui viennent aimer les bouquins et qui les lisent et qui m'en parlent. Et pour moi, je trouve ça extrêmement intimidant et un grand honneur qu'il y ait des gens qui aient eu envie de passer du temps avec mes histoires.
Une question aussi que je me posais dans votre cas, Lionel, c'est justement le fait que vous soyez d'abord venu de la traduction écrite, hein, puis la direction de revue, et puis, même si ce n'est pas votre métier, vous faites avec brio, je vais le dire, tant pis, la traduction d'un auteur comme Robin Hobb ou Christopher Price, c'est deux grands, hein, dans des genres extrêmement différents. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ou est-ce que c'est complètement différent de votre travail d'écrivain?
C'est différent, et en même temps, ça aide énormément. C'est différent parce que quand on traduit, ne serait-ce que de façon écrite, c'est ce que je martèle à mes étudiants, parce que je donne un peu quelques cours à la fac d'Angers aussi dans le domaine, on est la voix de l'auteur qu'on traduit. Donc on est là avant tout pour servir une œuvre, et pour servir évidemment son discours. Donc, il s'agit de se couler au... Le traducteur, en fait, traducteur littéraire, c'est la personne qui va lire une œuvre de la façon la plus détaillée, la plus approfondie possible. Même l'auteur, je peux le dire, même l'auteur ne lit pas avec un tel degré de détail son propre travail, même s'il a réécrit 15 fois. le traducteur va se couler dans le style de l'œuvre pour essayer de passer au maximum toute sa subtilité, tout son discours. Et donc, le meilleur traducteur est celui qui va être totalement invisible et s'effacer. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on demande d'un auteur, parce que si l'auteur est invisible et s'est effacé, soit on a un livre avec des pages blanches, soit on a un livre assez ennuyeux. Mais là où c'est un excellent exercice, je considère l'écriture un peu comme je considérerais la musique. Un bon pianiste, autant que possible, il sait tout jouer. Un vrai bon pianiste. Alors il va avoir des genres de prédilection, évidemment. Mais vous lui donnez une partition, il sait la lire. Un bon dessinateur, un bon illustrateur, il a évidemment lui aussi des sujets de prédilection, mais il va savoir dessiner tout un éventail de choses. Je considère que la littérature est un peu la même chose, et la traduction est probablement le meilleur exercice d'écriture qui soit, parce qu'il faut se couler dans une œuvre, la retranscrire fidèlement pour le public qui va la lire dans la langue cible. Et donc, même si l'on écrit pour les autres, qu'on se met 100% au service d'une autre œuvre, on apprend énormément de choses parce que ça présente constamment de nouveaux défis d'écriture. Et puis on apprend plein de trucs aussi. J'ai appris des trucs complètement surréalistes en faisant de la traduction, de la marine à voile, en passant par des mots de haïtien, jusqu'à de la mécanique quantique.
Paul Béarn, comment vous êtes venu à l'écriture ?
Alors j'avais 5 ans quand ma mère me lisait Bilbo le Hobbit dans mon lit avec mes frères et sœurs, voilà.
Ça pouvait mal se terminer.
Il ne faut pas faire des choses comme ça à ses enfants. Et donc j'ai décidé à 5 ans, je ne savais pas encore écrire, que moi aussi j'écrirais des histoires quand je serai plus grand. Et c'est une promesse que je me suis faite et j'ai essayé de la tenir. Donc j'ai même pris le pseudo Béorn, qui est un personnage de Bilbo le Hobbit, en mémoire de ce roman.
Très bien. Patrick Maxpart, ça s'est passé de la même façon ou c'est venu autrement ?
Moi, non, personne ne m'a lu. Ma mère ne m'a pas lu Bilbo quand j'étais petit. J'y suis venu tout seul, en fait, par le biais de la presse BD de l'époque. Pif Gadget, je lisais beaucoup. Et j'ai gardé ma première BD. Qui est absolument immontrable, évidemment, hein, comme vous en doutez, mais par sentimentalisme, je l'ai toujours. Je la date en gros de l'âge de mes 8 ans, et donc scénarisée et dessinée. Et à partir de là, j'ai jamais arrêté d'inventer des histoires. Ça peut être d'ailleurs assez angoissant pour l'entourage proche, finalement. On se dit, mais attends, je vis avec quelqu'un qui raconte des bobards, qui pense. qui raconte dans le métier de raconter des histoires, quoi. Et donc, j'ai jamais arrêté. Je suis passé longuement par la case rock'n'roll, mais en tant qu'interprète, compositeur et parolier, surtout parolier, donc en l'occurrence, j'ai écrit mes premiers textes, mes premières chansons, plus tard, vers l'âge de 15-16 ans. Et je continue, j'ai toujours mon groupe, un de mes groupes actuellement, et je continue à produire des textes. Donc, finalement, écrire. Comme beaucoup, hein, je pense, dans notre milieu, ça m'est venu. Ça a été un processus complètement naturel qui ne s'est jamais interrompu jusqu'à présent.
De jeunes gens qui m'entourent ont mal commencé dans la vie. L'un s'est mis à lire, c'est toujours un problème après. Et l'autre, lui, sa maman lui lisait des histoires, Bilbo le Hobbit. Donc, encore une fois, ça ne pouvait que mal se terminer. Il n'avait aucune chance d'entrer à l'Académie française. Il ne pouvait qu'écrire de la fantaisie. Mais Lionel Davoust, vous faisiez la fierté de votre famille. Vous deviez devenir ingénieur à l'UET, si c'est la bonne formulation, c'est-à-dire s'occupant des questions d'écologie marine en particulier. Et vous étiez promis à une belle carrière de cadre. Et finalement, vous m'avez raconté des histoires. Et en plus, quelles histoires ? De la fantaisie.
Je ne sais pas si j'étais promis une belle carrière parce que je voulais étudier les baleines et les dauphins et c'est pas non plus. C'est aussi un truc où on va boire de l'eau de manière générale. Là, on peut éventuellement le faire à Ibiza parce qu'il y a des dauphins, mais. Non, moi aussi, hein, j'ai eu une mauvaise influence. Hein. Moi, mon père me lisait les héros de l'âge d'or, il me lisait Van Vogt, Shelley, etc. C'est vrai que j'étais parti pour faire un travail quand même un tant soit peu respectable. Mais je vais pas vous raconter ma vie. J'étais parti pour faire une thèse et puis il s'est passé un vague événement dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelait le 11 septembre. en 2001. Et à partir de là, tous les financements ont été gelés pour les tests qui m'intéressaient. Mais de toute façon, je savais depuis toujours que j'aurais une composante de création dans ma vie littéraire. Et je ne savais pas juste pas quand, ni de quelle façon. Puis bah, du coup, comme ça m'a permis aussi de réfléchir et de me dire que j'étais pas fait pour j'étais probablement pas fait pour la recherche. J'ai pas le bon état d'esprit pour ça. Moi, je préfère raconter des histoires. Je préfère avoir une attitude candide et rêveuse envers l'existence. Alors, vous imaginez à quel point les parents ils sont contents quand vous leur dites ça.
Lionel, pour conclure sur ce point, et puis je passerai la parole à vos deux amis, je ne vais surtout pas faire rater le train de Paul Bern, mais on le garderait bien. Une fois on l'a fait d'ailleurs, on n'a pas prévenu, puis il est resté, c'était drôle. Mais bien, on évitera là quand même, parce que je crois qu'il a des obligations. Mais Lionel Davoust, très sérieusement, pourquoi la fantasy? Vous avez fait quelques nouvelles de SF, d'ailleurs pas mauvaises du tout, puisque la première que vous avez publiée a été nominée à un prix, donc ça commence plutôt bien. Et puis vous êtes tourné quand même si vous avez fait du trailer ésotérique, on est quand même plutôt fantasy urbaine, fantasy plutôt épique pour la route de la conquête. Et votre prochain roman, allez sans tout révéler, puisqu'il y a de jeunes fâchis de presse. Parlez-nous un tout petit peu de votre grand projet, parce que c'est un roman d'un million de signes qui va sortir fin août et dont je crois votre éditeur critique fait son coup de cœur fantasy de l'année.
Effectivement. Alors c'est un bouquin qui s'appellera Port d'âme et qui reprend l'univers des Vanégyres, s'il y en a qui connaissent ici, où se situe La route de la conquête qui était sortie l'année dernière et La volonté du dragon qui était sortie en 2010. Mais ce sont à chaque fois des livres entièrement indépendants. On peut le prendre d'ailleurs dans n'importe quel ordre, et d'ailleurs parfois on me demande dans quel ordre faut les prendre et je suis incapable de répondre parce qu'ils sont à chaque fois conçus comme des ensembles narratifs indépendants. Mais on retrouve parfois des lieux, des personnages, des noms qui ont évolué avec le poids de l'histoire. Port d'âme, très simplement, c'est une histoire d'ascension sociale et d'amour et de choix entre les deux. Pourquoi la fantaisie? Parce que pour moi, tout simplement, c'est le genre qui offre le plus de liberté. J'ai fréquemment des envies d'histoire, des concepts, des thèmes que j'ai envie d'explorer. Par exemple, dans Port d'âme, la femme dont le personnage principal avec lequel il commence à se lier, mais c'est quand même un peu compliqué, c'est une histoire d'amour, donc si c'était simple tout de suite, il n'y aurait pas d'histoire. Elle a la capacité de transférer la charge émotionnelle de ses souvenirs les plus importants à quelqu'un d'autre. Et parce que les questions d'identité, de mémoire, de ce qui nous construit, sont des choses qui m'intéressent et aussi d'évolution au fil de l'âge et du temps. Et tout simplement, la fantaisie, l'imaginaire, mais la fantaisie, pour moi en particulier, permet de passer le maximum de temps sur ces concepts-là et sur ces questions-là sans passer un temps qui, personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir comment ça se fait. Ce qui m'intéresse, c'est les règles qui vont évidemment définir cette magie, puisque c'est une magie, et les conséquences que ça va avoir, et ce que ça va nous montrer sur les personnages, éventuellement ce que ça peut nous poser comme question sur nous-mêmes. Et la fantasy, pour moi, c'est le genre qui permet de faire ça. On parlait un peu des influences. Mon plus gros choc littéraire quand j'étais ado, c'est L'écume des jours de Boris Vian. Et où je me suis dit, la vache, on peut faire ça. C'était vraiment ça. Je lisais les classiques qu'on me faisait lire à l'école. Ça me barbait un peu. Et quand je suis tombé sur L'écume des jours, ça a été un véritable choc en me disant, on a la vache, on a le droit de faire ça en littérature. Et je vais probablement peut-être faire hurler, mais c'est pas grave. Pour moi, le surréalisme, c'est la même démarche que la fantaisie. C'est-à-dire qu'on a un monde imaginaire qui nous parle finalement de nous. Et on utilise un changement de perspective, peut-être un artifice un peu poétique qui nous fait rêver, pour nous parler de l'humain et nous faire réfléchir sur nous-mêmes et se permettre des choses qu'évidemment la réalité ne permet pas de faire. Et pour moi, la fantaisie, c'est mon genre de cœur parce que c'est le genre, à travers la magie, qui permet justement toute cette liberté de création, de poésie, parfois de dureté. Et je le retrouve difficilement ailleurs.
Patrick Max parle, Les héritiers de l'aube. C'est une série qui va compter combien de volumes?
Elle est terminée, c'est une trilogie.
J'ai pas lu le dernier.
Voilà, donc.
C'est de ma faute.
C'est pas grave.
Ah si, mais on a tellement de livres à lire passionnants.
Oui, j'entends bien. C'est une trilogie. J'hésitais au départ, j'étais plutôt parti pour la conclure en 4 tomes, et puis En cours d'écriture du tome 3, j'ai craint de ne pas avoir suffisamment de matière réellement dense pour animer un tome 4 digne de ce nom. Après, si c'était
bien
pour
ce que
faire,
j'ai entendu.
Voilà.
Donc c'est un respect du lecteur.
Totalement, totalement. Parce que faire du remplissage pendant, une trentaine de pages, ça aurait pas été très digne, quoi. Donc voilà, j'ai préféré du coup rajouter 4 chapitres au tome 3 et conclure la série de la même façon que celle qui était prévue pour le tome 4. Sauf que là, c'est effectivement un peu plus condensé. Ça n'en est d'ailleurs que mieux puisque c'est speed, quoi. Les 4 derniers chapitres sont quand même très, très speed.
Le prochain projet, c'est quoi ?
Ah, c'est une nouvelle saga qui sortira chez Scrineo. Je dis d'une part parce que j'ai également un projet qui sortira chez Pygmalion. Là, ça sera plutôt, ça sera adulte, ça sera un thriller médiéval adulte chez Pygmalion et chez Scrineo, donc plutôt une nouvelle saga jeunesse pour changer. J'avais envie de changer un petit peu de registre et donc là, ça se passera pendant l'Angleterre victorienne avec pas mal, quelques éléments steampunk, de la sorcellerie. Mais ça évoluera toujours dans l'univers partagé qui est cher à mon cœur, comme Les Héritiers et Les Hauts Compteurs. Encore une fois, bon, c'est exactement pareil. Ce sont des séries indépendantes qu'on peut lire Les Héritiers sans avoir lu Les Hauts Compteurs ou vice-versa. On pourra lire la prochaine saga de la même manière. Mais j'aime à créer des passerelles. Et des clins d'œil aussi pour ceux qui auraient lu l'ensemble, ceux qui me suivraient du début à la fin. Celles et ceux, pardon, qui me suivraient du début à la fin.
Paul Béhan, le jour où, j'ai pas vu ça arriver chez moi, c'est normal, c'est sorti récemment ? Ou c'est un oubli ? Racontez-nous l'histoire.
C'est sorti en automne 2014.
Ah, je me semblais bien qu'il m'avait échappé. J'en parlerai à votre éditeur. Oui. Pour le féliciter. Ah oui, allez-y.
Sonnez-lui les cloches.
Paul Béhan.
Alors, Le Jour Où, c'est un roman qui part d'un postulat qui a déjà été repris par d'autres auteurs, qui est que les adultes s'endorment tous un jour et ils ne restent plus dans une certaine ville que les enfants et les adolescents qui doivent se débrouiller tout seuls. Je ne sais pas très bien d'où m'est venue cette idée. Je pense que c'est d'autres livres, hein, comme... Sa Majesté des Mouches. Mais je voulais transposer ça dans une ville française, dans un univers que je maîtrisais mieux. Et j'ai des enfants. Et quand on est parents, on se demande toujours ce que les enfants vont devenir une fois qu'on sera plus là, le monde qu'ils vont construire après nous. Donc là, c'était en accéléré. Ils devaient construire ce monde alors qu'ils étaient encore adolescents. Et comment est-ce qu'ils allaient pouvoir le faire alors qu'on leur avait laissé, nous, un monde qui était... qui n'était pas très rigolo et qui ne leur permettait pas de trouver les clés pour construire le leur. Mais ça a l'air très philosophique comme ça, mais c'est un roman d'aventure avant tout.
J'imaginais bien. Est-ce que vous envisagez un jour de passer à un autre genre d'imaginaire, voire hors de l'imaginaire, Patrick Maxpart ?
Oui, alors ça restera mon genre de prédilection parce que je m'amuse comme un fou dans la littérature fantastique, mais effectivement, j'ai en projet un roman qui sera plutôt une grande saga, enfin une grande aventure avec une certaine proportion de romance actuelle, donc qui s'inscrira plutôt dans la littérature dite blanche, oui, effectivement. Mais je resterai quand même, je reviendrai très vite, je pense, à mes aventures fantastiques.
Paul Béhan, même question.
Alors. Moi, j'aime bien explorer un petit peu tous les genres. J'ai d'abord commencé avec la fantasy, et puis en roman jeunesse, on peut faire d'autres choses. Donc Le Jour Où, c'est un roman qui... Je ne sais pas trop comment le classer, d'ailleurs. J'appelle un peu roman catastrophe. D'autres l'appellent roman post-apocalyptique. 14-14, c'est un roman à la fois contemporain, historique et fantastique.
Ça, je l'ai reçu, je l'ai lu, c'est génial.
Et donc, pour moi, quand on est écrivain, mais je rejoins un peu ce que disait Fabien, la fantasy, c'est le genre qui permet le plus de liberté. Mais la plus grande liberté encore, c'est de pouvoir choisir son genre et d'en changer à volonté.
Je suis bien d'accord. Lionel.
Bien,
J'exclus pas de faire peut-être des incursions dans la SF, même la littérature générale, où j'ai peut-être quelques idées pour ça. Mais de façon générale, je me rends compte que je reviens toujours à des questions d'enchantement du monde et où la magie perce et comment et quel effet elle a sur nous. En plus, je trichais un peu parce que La Route de la Conquête et La Volonté du Dragon, les deux livres parus dans ce vaste univers des Vanégires, a été qualifié de science fantasy. Donc, c'est un peu à cheval. Mais d'une manière ou d'une autre, je me sens toujours revenir graviter vers ces questions d'enchantement. Et cet enchantement, elle prend toujours la forme d'une magie plus ou moins marquée, plus ou moins ferme. Donc, je pense que je reviens toujours graviter vers la fantasy d'une manière ou d'une autre. Même quand j'écris de la SF, je mets du fantastique dedans.
Changer de genre, c'est la liberté, je le concède, Paul Béorn, mais ça, c'est votre choix. Rester fidèle à son chemin, c'est le choix de Lionel Davoust, et puis faire quelques escapades tout en continuant s'aligner, c'est celui de Patrick Maxperbe. Finalement, ces trois visions de la liberté, ce qui compte, c'est que rien ne nous soit imposé, c'est que nos lectures, comme toutes nos vies, soient libres, et finalement, c'est peut-être ça que nous disent les Imaginales et tous ceux qui contribuent. Merci à vous tous et à l'année prochaine.
Merci beaucoup.